Bienvenue dans la vallée du Guillec, entre Sibiril et Plougoulm. Donc je vous remercie d'être venu. Dirai quelques mots sur un merveilleux métier qui n'est pas prêt de s'arrêter, parce que faut savoir que l'agriculture, l'horticulture, c'est quelque chose qui nourrit les hommes. Ça nourrit effectivement les insectes, les animaux, tout un tas de choses, mais ça nourrit surtout les hommes. Donc à partir du moment où on nourrit les hommes, eh bien, il va nous falloir trouver quand même des solutions pour produire localement, trouver des plantes qui sont faciles à cultiver et qui demandent surtout aucun pesticide. Là, vous avez une sélection. Là, moi, je suis sur le Camellia sinensis, le thé. Le thé est une boisson qui est, consommée dans le monde entier. C'est la plus grande boisson qui existe. Donc cette plante, beaucoup de gens consomment du thé mais ne connaissent absolument rien de la plante. C'est pas grave, hein. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Voilà, donc on est sur une plante qui ressemble à beaucoup d'autres en Bretagne et à beaucoup d'autres dans d'autres régions dans le monde entier. C'est cette plante-là. Vous avez ici un camélia. Donc beaucoup de gens savent ce que c'est qu'un camélia, voilà. Mais la particularité de ce camélia, c'est un camélia sinensis. Camélia sinensis qui veut dire camélia chinois. Contrairement à ce que beaucoup de camélias que l'on trouve ici en Bretagne et ailleurs, beaucoup en Galice, beaucoup en Italie, mais dans le monde entier, c'est du camélia japonica qui est un camélia. Tandis que là, on va faire du thé comme est fait au Japon, comme est fait beaucoup dans tous les pays d'Asie, même au Kenya, au Sri Lanka, tout ça. Donc on récupère le bourgeon. Quand le bourgeon il est comme ça, ensuite on va le rouler, le travailler pour l'oxyder. Voilà, on va oxyder cette plante. Ensuite il sera séché, roulé, soit passé au wok, soit passé dans des séchoirs. Tout dépend le thé que l'on veut réaliser. Donc avec tout le monde est là, on va pouvoir passer à la cueillette. Hein. Donc Émile est dans le coin.
Il est là.
Émile.
On va prendre des paniers.
Donc Émile, c'est la personne qui transforme le thé de Bretagne. Donc voilà.
Comment on va leur dire lequel choisir, tu vois?
Mais là voilà. Regardez, approchez-vous, regardez les jeunes. Là on a deux feuilles là, une feuille un petit bourgeon, et on a une petite feuille ici là, qui est très tendre. Je pense qu'on va faire ça.
Voilà.
On ne cueille pas plus grand que ça. Voilà. Si on veut faire du thé de haute qualité, on est obligé quand même. La sélection se fait. Alors effectivement, ce que vous trouvez dans les sachets, c'est de la miette, c'est pas de la feuille. Parce que les feuilles, après, Émile vous ferait voir comment elles seront roulées pour qu'elles puissent. Sur elle-même, hein, t'as plus le geste que moi. Voilà, t'as été travailler dans les plantations au Japon.
Là, elles sont encore un petit peu trop.
Donc Michel, on est là en plein cœur de la cueillette.
Absolument, il y a la dernière cueillette d'automne.
Et donc on est au moulin de Kérouzéré,
oui,
à Sibiril.
À Sibiril,
le 24 septembre. Et donc moi j'avais une question déjà. Michel, il se présente comment? C'est quoi la trajectoire de Michel dans la vie?
Trajectoire de Michel dans la vie, mes parents étaient exploitants agricoles dans Val-de-Loire, le Loir-et-Cher. Et moi, je voulais être au départ mécanicien et on m'a inscrit dans une école et je suis devenu chaudronnier soudeur. Ce qui m'a emmené ensuite à travailler dans une laiterie, mon premier à 17 ans. Et comme j'avais quelques facilités manuelles, ça m'a permis de gravir les échelons. Et tout de suite après, à 18 ans, je suis parti comme militaire. J'ai devancé l'appel parce qu'il y avait encore le service militaire à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé dans les commandos parachutistes sans avoir rien demandé. J'ai fini sergent-chef et j'ai dit non, c'est pas pour moi, ce militaire.
Et passionné de plantes aussi, du coup, en tant que fils d'agriculteur ou pas forcément
non,
à l'époque ?
Pas au départ. Au départ, c'est ma grand-mère surtout qui faisait des boutures tout le temps, qui, quand on est gamin, quand ma grand-mère me gardait, hein, dans les fermes c'était ça, les grands-parents gardaient les enfants. Et puis, elle me disait, allez, on bouture ça. Et puis, mais la vie, c'est pas ça aussi. La vie, il faut pouvoir vivre de sa passion. Et oui. Vivre de sa passion, c'est compliqué. Et puis un jour, il y a une annonce qui passe. On recherche une personne technique pour rentrer dans un centre hospitalier. J'ai travaillé presque 18 ans dans les blocs opératoires à réparer les outils des chirurgiens, à créer des outils, à travailler pour le SAMU, le premier hélicoptère. Si vous voulez, SAMU, c'est moi qui ai créé le premier appareillage dans un A350. Hein,
un petit côté MacGyver un peu.
Bon, c'était. Oui, c'est, vous savez, la vie, c'est surtout quelquefois les rencontres.
Ouais.
Et puis un peu de chance de temps en temps de rencontrer des gens sympas. Et puis qui de temps en temps disent tes compétences, il y a mêlé là à notre service. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après,
les choses se faisant, vous êtes arrivé à Sibiril. Alors, est-ce que vous aviez des attaches déjà ici ou c'était...
Non. Alors, comment je suis arrivé à Sibiril ? Eh bien, donc j'étais toujours au centre hospitalier. Et en 99, il y a une expédition bretonne pour le Yunnan. Donc, qui était... faite par Raymond Graal, hein, une personnalité qui a fondé Kérisnel. Et donc, il me dit, donc on est parti 3 semaines récolter des graines de plantes dans le Yunnan jusqu'à 4000 mètres. Donc on a vu des chantés, on a vu un tas de choses, on a vu des magnolias, on a vu plein de choses. Et là, j'étais déjà un peu plus passionné de plantes, parce que c'était donc en 99. Donc, un jour, on fait une. Tous les gens étaient bretons, sauf moi. Et donc, ils font une conférence sur ce qu'on avait récolté. Et donc, on est venu ici. Donc, ma femme est venue, elle a dormi ici. Et c'est là qu'on a trouvé ce moulin, après, en 2005.
Et vous avez décidé de le racheter ?
Voilà.
Et donc, il y a eu toute la phase de rénovation ?
Complète. C'était une ruine. C'était okay. Des arbres à l'intérieur. Il n'y avait plus rien.
Et aujourd'hui, le moulin, il fonctionne ?
Le moulin, il y a la roue, il y a tout. Et tout est en fonctionnement, sauf les meules, évidemment. Mais sinon, la roue existe, elle a été restaurée, c'est moi qui l'ai faite. Et donc, voilà. Mais entre-temps, j'étais plus au centre hospitalier. On m'avait demandé, dans une école, de devenir prof. Et donc, en 2000, je suis devenu prof dans l'éducation nationale. Et on m'a demandé, c'était un établissement régional d'enseignement adapté, les élèves plutôt en difficulté, d'essayer de, comme il n'y avait pas de prof, je veux dire, et comme prof, pour 16 ans de professorat, je suis devenu professeur principal, j'ai passé un master 2 à 58 ans, voilà, il y a des choses où la vie étant, voilà comment ça s'est fait, et on a fait plein de projets, hein, ici, parce que chaque année, je travaillais sur Châteauroux, dans l'Indre, donc chaque année on faisait un projet pédagogique, on emmenait les élèves. Donc on a refait ici toutes les grilles du château, la grille d'honneur du château de Kérouzéré.
Oui.
On a fait une roue de moulin à Quimper. On a fait une roue de moulin à Mélac, côté de Quimperlé, avec les élèves. Donc chaque année on faisait un projet, donc il fallait trouver le projet, mais après c'est quand même au prof de trouver le projet pour, oui. Avoir une continuité dans l'année. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait.
Et donc vous avez petit à petit eu des attaches ici, j'imagine, voilà. et vous aviez une intention particulière de développer un parc comme ça, parce que je crois que le parc il est assez fourni finalement en termes de variété.
Il y a 2400 plantes, dont à peu près 1000 et quelques espèces, puisque bon, effectivement il y a des plantes que l'on prenne un camélia japonica, je dirais Made in Bloch ou un autre, ou Narcissiflora, ce sont toujours des camélias, mais c'est la floraison qui est différente. Voilà, donc, et dans les magnolias, il va y avoir 350 espèces de magnolias. On a des magnolias très très particuliers.
Donc, la propriété traversée aussi par une rivière, le Rieck.
C'est
j'imagine une des conditions pour pouvoir cultiver des plantes.
Absolument,
comme ça.
On est sur une vallée très fertile, et contrairement à ce qu'on peut penser, on appelle ça une rivière, c'est pas une rivière, parce que comme s'il se jette dans la mer, c'est un fleuve côtier.
C'est ça la particularité. À partir du moment où il se jette en mer directement, c'est un fleuve côtier. Donc on est sur le Guillec, un fleuve côtier, avec des truites, avec des saumons, avec des anguilles, avec un environnement très protégé. Très protégé. Alors il y a une plantation de thé et puis une plantation de poivre.
Oui, parce que là on est entre, les auditeurs ne voient pas, mais là on a à ma gauche des rangs de thé et à ma droite des plants de poivre du Sichuan. Deux spécialités bien précises.
Bien précises, évidemment issues de Chine. Et ce thé va être commercialisé par la maison Émiloté. Il a un nom prédestiné.
Mais vous aussi, je crois, Thévo.
Oui.
C'est ce que je me suis dit. On l'a déjà fait quand même, celle-là, non?
Non, pas encore. Donc, c'est lui qui se charge de la transformation, parce que c'est très compliqué d'avoir des feuilles fraîches et de faire un thé de qualité.
Donc tout seul, on ne fait pas cette aventure-là. Il faut savoir s'entourer. C'est les rencontres qui font aussi les choses.
C'est les rencontres. Parce que mon Émile, je l'ai rencontré, ça fait un an. Bon, le thé était déjà planté. Donc,
bon, on a échangé un petit peu avec lui. Il a dit aussi que la rencontre avec vous a changé sa vie quand même aussi. Hein.
Ah, je ne sais pas si elle a changé sa vie. Si on n'aide pas les jeunes à se développer, un petit coup de pouce, moi, c'est un plaisir de voir pousser mes théiers. Et surtout, si on peut en faire un thé de haute qualité dans le Léon.
Ok, alors du coup, pour terminer, en fait, moi, la question que j'avais, c'est du coup, votre thé, est-ce qu'on va pouvoir le goûter?
Oui, Émile Auté va vous le faire découvrir. Voilà. Et il va être en vente sur je pense que c'est les thés des châteaux. Voilà.
Vous savez à quel horizon, à peu près? Parce que le thé qui est ramassé là, ici, il sera consommable dans combien de temps?
Ben là, tout dépend ce qu'il fait. S'il fait du thé blanc, c'est très rapide. Mais je pense que là, il veut faire un thé vert ou un houlong. C'est un thé un peu plus élaboré. Je pense qu'il sera disponible dans un mois.
Voilà. Et après, je crois aussi que vous allez au salon des thés du monde en novembre.
Alors, notre thé a été présenté, puisqu'il est soi-disant avec un goût particulier. Alors, si c'est le thé du Léon qui a la chance de ramasser un prix, je dirais que je serais très heureux.
Oui.
Aussi bien pour Émile, parce que c'est lui quand même qui fait la transformation derrière. Donc, c'est quand même à lui que reviendra une bonne partie de s'il réussit à avoir un prix. Ce sera vraiment très intéressant pour lui.
Et un peu aussi aujourd'hui cru, parce que j'ai cru voir qu'il y avait quand même pas mal de locaux ici, des voisins,
de Lannion. Il y a l'école de Lannion, d'horticulture de Lannion, qui est là. Son professeur m'avait demandé s'il pouvait venir voir comme ils font de la recherche sur les plantes. Voilà, donc c'est avec plaisir que je les ai reçus ici.
Bah écoutez, merci beaucoup Michel.
Non, mais pas de problème.
Et puis on retourne à la cueillette alors.
Ah oui, on va y retourner parce que là, sinon ça va pas se faire tout seul. Hein.
C'est ça. Bon, en tout cas, il fait beau et ça c'est le principal parce qu'il avait prévu de la pluie. Les conditions sont idéales en fait, mais il pleut jamais.
Comment ça, il pleut jamais en Bretagne? Jamais, c'est une légende.
Voilà. Bon bah merci Michel.
De rien.